Bonjour à tous. Donc Patrick Krizoziak. Je dis bonjour, mais ça peut être aussi bonsoir. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux, on peut l'écouter quand on veut. Donc Patrick Krizoziak, coach habilité individuelle et collectif. Je fais cet épisode numéro 9 concernant le management et ce qu'on appelle le management top-down, c'est-à-dire un management un peu directif. Et je pose la question suivante, c'est de dire, est-ce qu'il est vraiment voué à sa fin ? Dans le sens où je lis beaucoup de choses et j'entends beaucoup de choses autour de moi, dans mon milieu, dans les entreprises, sur les réseaux sociaux, sur le fait que la bienveillance est mise en avant aujourd'hui. Mais est-ce à dire que vraiment le management top-down, comme on dit en anglais, du haut vers le bas, avec ses avantages et ses inconvénients, est-il vraiment voué à se terminer ? Alors, je vais vous raconter un peu mon expérience en la matière, histoire de donner de l'information pour dire comment, que faire ou comment faire pour finalement qu'une organisation avance, alors qu'on est habitué à ce type de management depuis des lustres. Top-down, c'est depuis que les premières usines sont apparues. Voilà, le Fordisme aussi, c'est ça, les conséquences. Maintenant, c'est le système qui aussi peut top-down fonctionner, puisque on consomme des biens, automobiles, on consomme des biens alimentaires. Et dans beaucoup d'entreprises, moi j'assiste depuis maintenant 25 ans que je travaille à recevoir des salariés dans tout type de problématiques ou de carrière ou de coaching individuel ou d'équipe ou de la formation. Ben je vois quoi et j'entends quoi ? J'entends beaucoup de gens qui sont directifs. J'entends pas seulement le haut, le directeur qui est direct. J'entends aussi les cadres intermédiaires et puis même les opérationnels entre eux. Ce sont des gens très directifs. Donc, vous voyez, ce podcast, si vous voulez continuer à l'écouter, ça va remettre un petit peu en question le point de vue de dire c'est à cause du haut, c'est à cause des directeurs que ça fonctionne pas. Parce que pour tout vous avouer ou vous dire, le système perdure, ce système-là d'autoritarisme, en fait, mais qui fait ses preuves, encore une fois, puisqu'on consomme, on achète. Il y a bien des produits qui sont mis sur le marché dans un système autoritaire. Ça a cet avantage. Et bien, les gens qui sont contre ce système, qui disent qu'ils sont frustrés, que ça ne va pas, ce sont les premiers à faire perdurer ce système. Et voilà, donc je vais m'expliquer aujourd'hui dans ce podcast. Et pour vous dire que toujours, moi, la vérité est au milieu. Et quand on veut faire une action contre un management trop top-down, parfois l'intervention n'est pas à faire là où on le pense, à savoir dans un comité de direction, puisque ce sont les décideurs qui seraient, selon certains points de vue, les personnes directives, et que c'est le haut de la pyramide qui a un impact sur tout le bas. Je suis d'accord avec ça. Mais attention, pas seulement. C'est-à-dire que ce type de management qui représente une façon de faire face à la pression, à la nécessité d'objectifs, de croissance, de développement, donc c'est un peu le management directif qu'on voyait chez les militaires, qui est fort utile, mais c'est fort utile quand il y a la guerre. Est-ce que c'est utile quand il n'y a pas de guerre ? Alors, certains membres de corporate me disent il y a la guerre, il y a la guerre économique, on met la pression, c'est l'équivalent d'une guerre. Moi, je réponds confrontant la personne directement, non, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort de sang. Vous voyez, il peut y avoir des gens, effectivement, qui sont mis sur le carreau, que la médecine du travail commence à prendre en charge depuis une quinzaine d'années de plus en plus, donc il y a bien un souci. Et c'est effectivement pour ces raisons-là qu'on parle d'un management top-down peut-être plus adapté de nos jours. Mais même si le manager top-down mettait de l'eau dans son vin, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait ? Donc on peut mener une action en collectif, on peut ouvrir l'esprit des personnes sur le fait que désormais on va les empowerer, comme on dit dans le jargon francophone du terme anglais « empowerment », on va leur donner plus de pouvoir et plus d'initiative. Mais l'action va se heurter à des habitudes. Oui, ce type de management directif a généré des habitudes, et les personnes s'y sont pliées. Autrement dit, si je prends une technique de développement des relations que j'aime beaucoup, qui est l'analyse transactionnelle, l'état du moi utilisé le plus souvent dans un management directif, c'est l'état du moi parent, voire parent persécuteur. plus que normatif, bienveillant. Excusez-moi pour le jargon de ceux qui sont néophytes en la matière, mais ça parlera peut-être à d'autres. Donc c'est un management parent, état du moi parent, qui va stimuler l'état du moi enfant avec l'adaptation sans rien poser comme question, la passivité. Voilà, on me demande de faire ceci, je le fais parce que j'ai intérêt à le faire, j'ai le sens à le faire. On m'a toujours habitué comme ça. Et de l'autre côté, on aura des personnes qui vont, elles, peut-être s'en plaindre, et ce qu'on appelle des rebelles, qui vont confronter plutôt durement, ce sont peut-être les postures de certaines personnes ou de certains syndicats qui ont, face à un type de management très autoritaire, eu en réaction, une réaction logique, normale, de contre-réaction, de contre-décision. Donc ce qu'on appelle l'état du moi enfant rebelle. Ce qui est évident, c'est que le management directif va entraîner chez des personnes deux types d'attitudes, où je fais parce que c'est comme ça, et ce qu'on appelle la passivité, je fais aussi pour plaire, parce qu'on attend de moi ceci, donc je vais me ranger à ce qui est attendu. Ou au contraire, on va avoir des réactions brutales, nerveuses, contre, et qu'on appelle rebelles. Vous voyez ce style de système d'organisation, en fait, très direct, qui a ses résultats. Encore une fois, on pourrait en débattre. Des leaders me diraient « vous avez tort parce que moi j'atteins mes objectifs avec ce principe-là, ça fait 25 ans que je travaille, ça fait 30 ans que je travaille, j'ai toujours appliqué ça, c'est pour ça que je suis arrivé à ce type de poste et ça fonctionne. » Maintenant qu'il y ait des gens qui suivent pas, il y en a toujours eu de toute façon. Donc ce à quoi moi je réponds, écoutez, on va pas changer de toute façon, je vais pas vous changer. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être vous ouvrir à une autre façon de voir et d'aller visiter des entreprises dans lesquelles ce n'est pas le cas, dans lesquelles il y a peut-être plus d'écoute partagée. Et quand je dis écoute partagée, c'est qu'on écoute l'autre jusqu'au bout. Donc communiquer vient du latin communicare, qui signifie simplement partager. Donc quand je communique avec quelqu'un, je prends 50% du temps et l'autre à 50%. Donc je le répète souvent, une entreprise qui écoute des collaborateurs et non pas qui préjugent que le collaborateur doit faire ceci et que s'il me dit qu'il a des difficultés à le faire, je lui renvoie le fait qu'il n'est pas compétent. Ça, c'est du management directif, c'est les conséquences d'une communication très top-down, hein. C'est un peu caricatural ce que je vous dis là, mais ça reprend beaucoup de ce que l'on me dit à différents stades dans les entreprises. Donc, comme si le management directif, c'était « je te demande de faire ceci, oui, sauf que j'y arrive pas, est-ce que je peux te parler ?» Et la personne, on lui renvoie qu'elle n'est pas compétente ou que ce n'est pas son problème et qu'elle doit venir dans le bureau qu'avec des idées ou des solutions. Donc, c'est aussi efficace, mais ça sera efficace sur une personne sur deux, pourquoi pas, mais une personne sur deux, ce ne sera pas productif. Alors vous allez me dire là aussi, c'est pas grave, on verra qui a le potentiel. Oui, sauf que je vous dis peut-être que sur un équipage d'un bateau, quand la tempête se lève, si vous avez 200 personnes, s'il n'y en a que la moitié qui se lève, c'est 100 personnes qui contribueront pas à vous aider dans le cadre d'une tempête, parce qu'ils prendront l'habitude d'être mis de côté. Donc c'est un peu ce que je dis à des personnes qui sont très directes, qui me prouvent que leur management aboutit à de bons résultats, qu'ils sont là pas par hasard, ce que je crois. Je leur reconnais du charisme, de l'autorité, ce sont des gens aussi lumineux, qui ont de belles idées, mais il y a sans doute à mieux faire. Et alors, quand on change un management top-down, ce que je fais dans certains endroits, dans certaines entreprises, je constate que finalement, le nœud de résistance, il n'est pas forcément qu'en haut. C'est-à-dire que finalement, un comité de direction à qui on explique que l'écoute active laisse émerger l'autre, le met face à ses propres responsabilités, à condition qu'il y ait une demande de vous sur des engagements. Il ne s'agit pas uniquement d'écouter une personne et de faire, entre guillemets, l'écoute psychologique. Hein, il s'agit de dire « je t'écoute, qu'est-ce que tu me proposes ? Je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, mais je te montre de l'ouverture, parce que je ne suis pas un manager top-down, je suis un manager à l'écoute, afin de te donner du pouvoir. Donc, qu'est-ce que tu me proposes ? Comment tu vois la chose ? De quoi aurais-tu besoin pour y arriver ? Et pour quand tu peux me le rendre ?» Cette posture, certains managers de haut niveau la comprennent très vite. Ils l'attestent. Et effectivement, après 2 mois d'intervention au sein d'une entreprise, j'ai déjà des échos comme si on me disait « tiens, ça a fait bouger les choses ». Et c'est moins fatigant. Alors répond oui, c'est moins fatigant parce que vous mettez moins la pression, parce que vous dégagez votre part de responsabilité à vous, vous la partagez, vous offrez à l'autre l'occasion de prendre sa part adulte. Ça, c'est de l'analyse transactionnelle, et non pas de mobiliser son état du moi enfant pour faire quelque chose. Donc, c'est son état adulte qui se met en route quand on le questionne, quand on lui montre une ouverture, quand on lui montre qu'on ne le juge pas. Ça crée vraiment du pouvoir chez les gens. Moi, je constate plutôt une résistance, vous voyez, à force d'avoir créé un système basé sur une organisation directe, parce qu'il y a une pression, parce que ceci, parce que cela, et bien, ça crée des réflexes dans tous les niveaux, chez tous les cadres de l'entreprise qui ont du management, et pas uniquement chez des leaders en haut, mais chez tous les managers, ça va créer le même phénomène de comportement avec leurs équipes à eux. Vous voyez, en ce moment, j'ai 2-3 personnes qui m'en racontent beaucoup à ce sujet-là, où on a donc toujours un peu le même constat. Patrick, j'ai du mal parce que les directeurs, les responsables ont tendance à montrer peu d'écoute. Donc, à quoi je joue pour pouvoir faire passer mon projet? Je joue à l'évitement. Donc, j'ai ainsi des personnes qui me disent, je n'ai pas accédé à mon N+2 ou mon N+3 depuis 2-3 ans parce que je l'ai vu, je le regarde, je le vois agir, j'ai vu les mesures de décision qu'il prend qui me font peur et qui vont faire que je vais l'éviter. Vous voyez le désavantage de ce type de système. J'ai aussi des personnes qui me disent qu'elles passent du temps à faire plaisir à ce type de direction. Donc on va parcelliser un peu l'information que l'on remonte. Ça, je trouve que c'est même délicat, voire grave, parce que quand on est, mettons, pilote de ligne et qu'on impressionne son adjoint, enfin son copilote, vous voyez, alors que vous avez 300 passagers, si vous êtes impressionnant, statutairement parlant déjà, c'est le cas, mais aussi par votre comportement, il est évident que un copilote plutôt jeune va aussi, lui, bon, faire son travail, mais osera-t-il ou daignera-t-il confronter son pilote? Je le renvoie parce que j'ai accompagné dans le passé des pilotes de ligne qui me disaient effectivement que leur problématique n'est pas uniquement technique, elle est aussi de faire émerger chez leur copilote le droit à s'exprimer, donc de le détendre, de lui demander de soulever chez lui des permissions. Enfin, je dis chez lui, ça peut être aussi une femme, le copilote, voire le pilote une femme et le copilote un homme. Donc l'idée même dans le management, c'est de faire penser aux uns et aux autres qu'ils peuvent se permettre de venir confronter une idée, de venir vous voir avec une idée non aboutie, sans qu'ils se sentent remis en question. Alors l'avantage des podcasts, c'est ça que se fait partout, et là je suis en week-end à la campagne, et j'ai eu une inspiration solaire, puisque je suis au soleil, donc sans doute que vous entendrez autour de moi des petits oiseaux, ce qui n'est pas un mal, et des aboiements. Alors, la nature m'inspirant, je reviens sur ce que je vous disais, la résistance pour moi dans le cadre d'un changement d'organisation, elle est plutôt au milieu, elle est au milieu des lignes, autrement dit, elle est à faire, il y a une action à faire aussi sur des managers middle, hein, comme on dit, n'y voyez pas de mauvaise interprétation de ma part, mais ce sont des managers donc intermédiaires, qu'on utilise le terme middle ou pas. Ces managers-là ont pris l'habitude de s'adapter à un style de management autoritaire. Et je vois vraiment des managers qui n'osent pas franchir la barrière de leur directeur, des managers qui me disent, à base d'exemples concrets, hein, qui se sont pris 2 ou 3 scuds, comme on dit, si vous vous souvenez ce que c'est qu'un scud, et qu'ils n'y reviennent plus. D'autres vont modifier, omettre, parcelliser, donner des échantillons de leurs difficultés, et pas toutes les difficultés, pour une raison, c'est que y a la peur d'entendre qu'on n'est pas compétent. C'est là où je reviens à les personnes qui m'écouteraient et qui me diraient le management top-down est efficace. Je leur dirais, on ne va pas le changer. L'homme est homme depuis des millénaires. De toute façon, je pense que dans l'inconscient collectif de chacun d'entre nous, on recherche un leader, on recherche une forme d'autorité. Ce que l'on appelle en coaching le postulat du fantasme de son N+1. À la fois, vous savez, quand vous êtes... vous-même, décideur, vous avez peut-être le symptôme de l'imposture. C'est un postulat numéro 1 qu'on fait tomber en coaching. Mais le deuxième postulat, c'est le postulat de fantasmer son N+1. Donc concrètement, ça veut dire que je peux avoir une personne en ce moment qui me dit, bon, la personne qui est à la tête de l'entreprise l'impressionne, donc elle a vu aussi en 2 ans des actions menées par cette personne, par ce leader, qui font qu'effectivement, elle s'est mise un peu de côté, elle va éviter d'aller le rencontrer. Ça, c'est une des conséquences négatives, je trouve. Mais de l'autre côté, il y a aussi une attente de dire que c'est au leader de venir me voir. Donc, si vous êtes un leader très occupé et que vous n'avez pas 36 mains, si vous voulez, vous n'avez pas la vision à 360 degrés tous les jours, comment vous pouvez faire pour... ça, c'est la livraison du pain. Vous voyez, on est à la campagne, donc ça se fait encore. Voilà de l'humain en direct de chez soi, et c'est pas des livraisons internet. Donc je disais, cette personne qui m'a confié ça me disait que elle attendait de toute façon un regard de son N+1. Vous voyez ce que je veux dire, ce que le fantasme peut représenter du cadre vers son N+1, c'est que le N+1 finalement est mon N+1 parce qu'il sait, c'est un expert, et c'est aussi à lui de me montrer de la considération. Or, c'est pas possible. Et le management top-down a généré ce genre de comportement, c'est-à-dire un comportement passif, attentiste, que des managers middle, entre guillemets, sauf s'ils ont une forme d'habileté extravertie possible, et que c'est dans leur peau, pourront franchir, pourront faire tomber cette barrière, mais d'autres, la majorité, n'a pas cette capacité automatique de faire tomber la barrière. Donc ils vont attendre quoi ? Ils vont attendre que le leader fasse un signe, si vous voulez, de reconnaissance, afin que je puisse venir le voir. Et ça, c'est de l'attentisme que je vois chez des managers middle qui ont pris la passivité, si vous voulez, la non-manifestation de soi, la non-émission des besoins, ils l'ont rangé. Donc, on a des personnes qui n'ont plus de capacité à exprimer un besoin, qui disent « je n'ai besoin de rien, je me suis débrouillé depuis que je suis dans cette entreprise dans laquelle le management est certes loyal, assume, mais un peu directif, j'ai appris à me désengager finalement de mes demandes. Or, si on ne peut rien demander, je vous pose cette question, qu'est-ce qui va se passer dans une entreprise si on peut finalement ne rien remonter, et pas uniquement remonter ce qui est attendu de positif? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 80% des gens qui vont se ranger et vous n'aurez pas d'informations, vous, le leader. Ce sont des comportements que je vois. Autre chose que je vois pour une entreprise qui voudrait changer son management middle, ce sont que les managers middle, sans qu'ils en soient conscients, ont finalement les mêmes réflexes de management avec leurs propres collaborateurs. Eux me disent donc, pour reprendre, que le management au-dessus directif, quelque part, les empêche de se manifester, donc avec les conséquences que ça peut avoir. Il va y avoir des jeux pour obtenir. Mais aussi, eux pratiquent comme ça, mais sans qu'ils en soient conscients. C'est là où moi, j'interviens en tant que coach pour leur dire « Et vous, comment vous êtes avec vos équipes? Comment vous faites pour manager vos propres collaborateurs ?» Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que j'entends? J'entends la même histoire. J'entends des collaborateurs qui vont me dire que leur manager est directif. Et quand je leur demande « Qu'est-ce que c'est concrètement être directif ?» Alors, est-ce que c'est « fait ceci, fait cela » et ne me pose pas de questions plus que ça ? C'est en partie ça, mais c'est aussi, par exemple, en réunion d'équipe, un aspect très argumenté qui émane du manager, qui explique ce que le reste de l'équipe va devoir faire, comment ils vont devoir le faire. Ce type de management va se soucier de « vous avez bien compris ce que j'attends de vous », mais ne laissera pas finalement la part de dialogue au menu d'une réunion de briefing, si vous voulez. Donc, quand je demande à ces managers donc intermédiaires d'ouvrir les yeux sur la façon dont ils pratiquent, ils sont d'abord étonnés puisqu'ils me disent « Écoutez, vous me surprenez, moi je pensais que c'était mes directeurs, mes directrices, mes responsables qui étaient directs et puis chez qui je ne pouvais pas autant m'exprimer que je le souhaitais. Mais je ne l'ai pas vu, Patrick, je vois que vous m'ouvrez les yeux sur le fait que je pratique de la même façon. » Et quand je leur demande à votre avis pour quelle raison vous laissez peu les autres parler, on a là ce qu'on appelle le symptôme de l'imposteur, à savoir je vais occuper le terrain, je vais argumenter pour montrer à mes collaborateurs que je sais, puisque j'ai peut-être 35 ans, que eux peuvent avoir 15 ans de plus, et face à des seniors, la seule façon de les manager, c'est de mieux connaître que eux ce qu'ils font. Donc c'est de faire une démonstration, si vous voulez, en réunion de travail, sur ma capacité à avoir des compétences. Vous voyez, et ça peut faire mal parce que ce sont des gens qui vont être sous pression. Non seulement ils doivent gérer 10, 12 personnes, mais soi-disant aussi connaître les sujets de ces 10, 12 personnes pour se trouver légitimes. Et ça va les amener à être perçus et vus comme des personnes qui n'échangent pas et qui n'écoutent pas parce que ce sont des personnes qui vont argumenter. Vous voyez, quand on a un point faible, on va essayer de convaincre l'autre, on va l'argumenter. Et du coup, chacun étant dans cette peur de ne pas se sentir compétent, va aussi avoir cette posture de non-écoute, de chercher à convaincre l'autre, d'argumenter. Et ce n'est pas de l'écoute, ce n'est pas de l'échange. Donc ce que je voulais vous dire dans ce podcast très campagnard, hein, dans lequel vous avez pu entendre non pas les poules, mais les oiseaux, les chiens, les mouches, pourquoi pas, les tracteurs, le boulanger qui livre humainement encore son pain ici, hein, c'est la campagne, on est en Espagne, du Nord-Ouest. Eh bien, si vous avez pu tenir le coup et écouter ça, ce que je voulais vous dire, c'est que changer un management top-down, c'est pas si évident que ça, parce que vous allez vous buter, vous heurter à des leaders qui vont vous dire qu'ils obtiennent de bons résultats. D'un point de vue de médecine du travail, des ressources humaines, on vous dira oui, mais à quel prix ? Mais la résistance, de mon point de vue, elle est plus chez les cadres intermédiaires qui se sont acclimatés à ce type de fonctionnement et qui pratiquent finalement de la même façon et qui vont avoir un jeu pour pouvoir vous demander ou émettre un besoin, et un jeu qui n'est pas positif parce qu'il va nuire à l'efficacité, il va nuire à la réelle information qu'il ne vous montrera pas, voire qui sera peut-être modifié ou parcellisé ou segmenté. On ne vous dira pas tout. Réfléchissez-y. Je vous remercie de votre attention. Et donc, c'était ce 9e podcast de Patrick Rizosiak. Donc, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, au sein de mon cabinet qui s'appelle SPK Energy Coaching, comme Self Power Key en anglais. Hein. Vous avez la clé, le pouvoir personnel de changer, c'est en vous à condition que vous acceptiez d'ouvrir aussi les yeux sur votre pratique, sur ce que vous faites et sur ce que disent ou pensent les gens de vous. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé mon cabinet SPK Self Power Key Energy Coaching, parce qu'on a effectivement cette faculté à ne pas vouloir regarder toujours au fond de soi-même. On a plutôt tendance à regarder chez l'autre ses défauts et pas forcément en soi ce qu'on pourrait peut-être un peu modifier. Merci beaucoup, à bientôt.